Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatch, le ravi Radio Grenouille. Votre mensuel le ravi, c'est tous les premiers vendredis du mois dans tous les kiosques de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, et l'émission la Grande Tchatch, c'est tous les quatrièmes samedis du mois sur les 3-8. Le Ravi, c'est également un site internet entièrement refait, en tout cas à neuf, www.leravi.org, avec nous pour démarrer cette nouvelle saison du Ravi, la Grande Tchatch. Le député UMP Richard Maillet, bonjour.
Bonjour.
Une tradition dans cette émission, Richard Maillet, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéroux qui s'y colle.
Vous êtes un peu à la politique ce que Jean-Pierre Pernaut est au journalisme populaire. Combien ça coûte d'être sacré par l'Express le député le plus actif de France ? Réponse sur votre site internet. Depuis 2002, date de votre première élection dans la circonscription de Gardanne, cela coûte 2400 déplacements, soit 260 visites de terrain chaque année, 5 par semaine, ce n'est pas tout. Cela coûte aussi 1782 permanences parlementaires, 10 000 personnes reçues, 39 546 courriers et demandes d'intervention traitées, 1638 interventions dans l'hémicycle et commissions, 155 amendements, 126 propositions de loi, 307 questions écrites. Je reprends mon souffle. Comme Jean-Pierre, vous êtes sensible aux causes qui savent émouvoir le contribuable français. Bataille contre la suppression des panneaux signalant les radars, campagne « Jamais sans mon département » pour garder le numéro des départements sur les plaques d'immatriculation, amendement pour taxer les boissons énergisantes. Comme Jean-Pierre, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous aviez 35 ans lorsque vous obtenez votre premier mandat de conseiller municipal de Bouc-Bégler. Au tour suivant, en 89, vous devenez maire de la commune. En 2002, vous emportez confortablement les législatives en détrônant Roger May, le pourtant indéboulonnable maire PCF de Gardanne. Vous rejouez le même match en 2007 en creusant encore l'écart. Bel exploit en ces terres communistes. Car, comme Jean-Pierre, vous êtes populaire, mais de droite. Vous êtes l'un des 35 membres fondateurs de la droite populaire, petit club de députés UMP très décomplexé et très déterminé à convaincre Nicolas Sarkozy de ne pas céder aux sirènes centristes. À droite toute donc, proposition de loi pour informer les maires de l'arrivée sur leur commune de condamnés pour faits graves, mobilisation pour refuser l'ouverture de négociations de l'Europe avec la Turquie, loi pour assouplir la réglementation interdisant le travail le dimanche, fronde contre l'enseignement de la théorie du genre sexuel, pétition pour refuser le droit de vote aux élections locales pour les étrangers. Premier questeur à l'Assemblée nationale, vous ne comptez pas votre temps pour faire avancer vos idées. Comme pour Jean-Pierre Pernaut, nombreux sont ceux qui vous trouvent plus populiste que populaire. Mais ce sont sans doute des fonctionnaires ou des assistés, peut-être pas tout à fait français, abonnés à la flemme, et pas seulement le dimanche. Le genre a siroté du Red Bull en attendant que les allocs arrivent.
Richard Maillet, un commentaire sur ce portrait à la sauce ravie.
Oh, truculent. Truculent. Non, c'est vrai, je suis bien dans ma peau. Je veux dire, moi, je discute avec des gens, j'appelle un chat un chat. Quand l'électeur me dit, quand il vient me voir, vous savez, l'histoire des SMS plus, là, les gens se disent, vous vous rendez compte, on reçoit des SMS et on les paye à la réception. Alors on a essayé de creuser et on a regardé ce qui se passait, donc on a fait un amendement, le ministre nous a dit c'est bien et on l'a retenu. Je dis voilà, ça c'est des choses concrètes et c'est ce qui m'intéresse. L'histoire de dérogation au repos dominical, c'est la même chose, c'est concret.
On reviendra là-dessus.
Ici, voilà.
On est là-dessus. Alors, mais droite populaire, donc elle est en ce moment à la une, comme régulièrement, hein, des médias, et puis pas de n'importe quel média, donc Thierry Mariani, ministre, un des cofondateurs de la droite populaire.
Candidat aux dernières régionales dans la région PACA.
Dans la région PACA, donc bien connu de nos auditeurs, qui donne une nouvelle fois, parce que ce n'est pas une première, une grande interview à la une de Minute, donc organe un des organes de l'extrême droite, pour lancer votre pétition contre le droit de vote des étrangers. Est-ce qu'un ministre de droite, de la majorité gouvernementale, a sa place dans ce type de presse? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi l'objectif?
Vous savez, alors, aujourd'hui, la presse, bon, on a vu avant-hier, quand on a lancé ce site pétitionnaire, que la presse, elle était là, le Front National. Soyons clairs, nous ne sommes pas partisans du Front National, nous ne sommes pas au Front National, mais par contre, c'est pas parce que le Front National pose des questions que nous aussi nous posons, que l'on n'a pas le droit de les exprimer. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, le Parti Socialiste en fait une priorité pour 2012, puisqu'ils ont la majorité au Sénat, et ils comptent avoir la majorité à l'Assemblée et avoir le président. Ils disent que dans ce cas-là, il faudrait passer le droit de vote des étrangers. Moi, je m'élève en faux la contre, puisque dans ce cas-là, entre un étranger et un Français, il n'y aura plus aucune différence. À quoi ça sert d'être Français ? À rien. Je suis navré, mais moi je suis un héritier de la Révolution française, 1789, je suis un républicain, je suis clair, bien dans ma peau, mes ancêtres se sont battus pour la patrie, pour moi ça représente quelque chose.
Ceux de certains étrangers également, Richard Maillet.
Pardon ?
Certains pourraient rétorquer que ceux de certains étrangers se sont également battus pour cette patrie.
Bien sûr, étrangers, par le sang versé. Mmh. Vous connaissez le livre, vous l'avez sans doute lu. Mais bien entendu. Mais dans ce cas-là, si vous voulez, nous avons les étrangers qui ont demandé la naturalisation française. Je veux dire, les choses sont claires. Aujourd'hui, je dis très simplement que si nous acceptons ce genre de proposition, quand il y a réciprocité au niveau européen, c'est comme ça, puisque les élections européennes, ça on comprend que tous les Européens peuvent voter, mais au niveau local, on leur a permis, parce qu'il y a réciprocité au niveau de l'Europe. C'est une chose. Mais tant qu'il n'y a pas réciprocité, on ne peut même pas discuter de ça pour moi.
Alors,
Richard, même pour les élections locales.
Tout à l'heure, Michel Guéraud évoquait les choix, parce que sur tout le catalogue socialiste qu'ils ont plus ou moins dévoilé durant ces primaires, vous avez volontairement, Monsieur Mariani, vous et les 50 députés de l'Union du Mouvement Populaire, ont choisi ce genre d'idées à mettre en avant, comme il y a eu la cacophonie qu'on a connue pour l'identité nationale, la double nationalité, aujourd'hui c'est le vote des étrangers. Pourquoi faire systématiquement ce genre de choix ?
Mais non, c'est pas faire systématiquement. D'abord, c'est quelque chose que je ressens moi-même, encore une fois. Moi, je suis patriote, je suis vraiment français, fier de l'être. Le drapeau, c'est quelque chose pour moi. La Marseillaise, c'est quelque chose pour moi. Ça, c'est clair. Et c'est pas... J'ai été éduqué comme ça, élevé comme ça. Bon, ça, c'est une chose. Mais pourquoi choisir ? Parce que ça, si vous voulez, c'est au fond de moi-même, et que quelque part, les entendre dire que ça devient une priorité dès l'élection sénatoriale, on a parlé de ça, c'est pour ça qu'on le soulève maintenant. Et moi, j'ai l'intime conviction que les Français n'en veulent pas. Donc, dans ce cas-là, disons-le, et éclairons le
Richard Maillet, est-ce que vous caricaturez pas un peu le débat ? Parce que la proposition qui est celle du PS, hein, donc parti d'alternance possible, n'est pas de donner le droit de vote à tous les étrangers, mais à ceux qui résident depuis plus de 5 ans en France et qui payent des impôts locaux. Donc les choses sont quand même bordées. Même avec ces conditions-là, vous estimez que cette mesure-là serait...
Mais non, je suis en train de vous dire que dans ce cas-là, donnez-moi la différence entre un étranger et un Français. Il n'y en a plus. Puisque aujourd'hui, c'est la seule différence.
Le français entre un étranger, le français de souche
légalement
pourra voter
en France,
aux législatives, aux présidentielles, aux temps d'élections qui seront interdites aux étrangers.
Car on parle des élections locales.
On parle des élections municipales.
On commence comme ça, on a commencé comme ça pour les Européens, maintenant on parle pour les étrangers, après on va finir. Non, moi je vous le dis très clairement, c'est comme ça, c'est-à-dire je suis prêt à en débattre, je débat avec vous là-dessus, mais je suis contre ce droit de vote. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, entre un Français et un étranger, il n'y a plus de différence. Dans ce cas-là, c'est plus la peine d'être Français.
Michel ?
Il y a un autre aspect dont on parlait dans ce sujet-là, c'est Coluche disait on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Est-ce qu'on peut défendre toutes les causes avec tout le monde ? Vous choisissez stratégiquement de lancer cette campagne de pétition, c'est pas neutre, vous êtes des hommes politiques, dans un organe de presse de l'extrême droite, Minute. Est-ce qu'il faut parler à cette presse-là ? Est-ce que vous n'êtes pas en train, pour parler franchement, de draguer cet électorat-là, voire de plaider pour une alliance avec le Front National rénové par Marine Le Pen ?
Toutes les droites jusqu'à l'extrême droite ?
Je vous ai dit très clairement tout à l'heure, je ne suis pas membre du Front National, je ne suis pas partisan du Front National, je suis membre de l'UMP, j'ai pas peur de mon étiquette. Dans l'UMP, vous avez un certain nombre de courants de pensée, si je puis dire, viennent se créer des humanistes. Bon, la droite populaire a été créée il y a 18 mois avec Thierry Mariani, mais il n'est pas tout seul. Nous étions au début 35, nous sommes aujourd'hui 44. Bon, très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas à Minute ? C'est un journal, ou alors on dit qu'il est interdit d'exister. On l'interdit de l'édition de Minute.
Alors, je cite Thierry Mariani, ce sont des amis, Lionel Lucas, ce sont vos amis, c'était dans Minute, c'était en 2010, Mariani fustigeant le clandestin malveillant et malin, les menus halal de l'équipe de France, Lucas disant qu'il faut arrêter le racisme anti-blanc et qu'il faut que ceux qui n'apprécient pas les Français retournent dans leur pays, et disant « je suis favorable à la reconquête des territoires perdus avec des véhicules blindés ». Est-ce qu'on n'est pas là dans des registres qui sont ceux de l'extrême droite?
Non, vous savez, vous les journalistes, vous êtes extraordinaires.
Parce mais que c'est d'abord, ça, c'est, allez, je cite.
Mais je dis pas le contraire, mais je dis vous êtes extraordinaires, parce que vous allez chercher la petite phrase sortie de son contexte. Bon, là, ce que vous sortez comme ça, c'est vrai qu'on peut être quelque part un peu étonné, quoi, d'entendre ça. Bon, je ne sais pas dans quelles conditions ça s'est dit, mais soyons clairs. Aujourd'hui, quand on vous parle de déficit de la France, les journalistes n'en parlent pas. On a parlé pendant les semaines qui viennent.
Justement, Richard Maillet, on vous attendait.
Pendant les semaines.
L'élection présidentielle va se jouer sur le social. On est dans une crise nationale et internationale. Et qu'est-ce que vous nous sortez? Une loi, ou en tout cas un projet de référendum, ou en tout cas une pétition contre le droit de vote aux étrangers. Vous ramenez le volet sécuritaire alors qu'on est en droit d'attendre de
Attendez,
vous,
monsieur,
député.
Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Oui. Pourquoi le volet sécurité? Non. Moi, je vous parle de nationalité. Et je vous dis que, et je recommence la quatrième fois que je le dis, qu'il n'y aura plus de différence entre l'étranger et le français.
Vous savez bien
et ça,
que
je
ne
peux pas l'accepter.
Vous savez très bien que toute la fonction publique...
Je ne peux pas l'accepter. Ça n'a rien à voir avec la sécurité.
Toute la fonction publique est interdite aux étrangers,
C'est un problème de nationalité. Voilà. Donc, je suis clair. Mais dans ce cas-là, les étrangers peuvent demander la nationalité française. On en a donné plus de 100 000 l'an dernier. Donc vous voyez, elle se donne, elle se mérite aussi pour moi.
On parle des présidentielles, la campagne n'a pas tout à fait démarré, mais avec les primaires presque. Est-ce que vous pensez que l'UMP, pour gagner, et Nicolas Sarkozy, vous avez été un de ses soutiens d'ailleurs de la première heure, pour gagner cette élection, doit la gagner à droite? Est-ce qu'il y a un risque de dilution au centre, peut-être, de ce qui a fait la dynamique de Nicolas Sarkozy lors du dernier rendez-vous électoral? Est-ce que vous pensez que ça va se gagner à droite?
Personnellement, je pense que ça se gagnera à droite. Mais en fait, je crois que... Vous savez, si on revient six mois en arrière, tout le monde donnait M. Strauss-Kahn, président de la République. Hein, si on écoute les sondages. Oui, six mois. Aujourd'hui, excusez-moi, M. Strauss-Kahn, on n'en parle plus que, permettez-moi l'expression, dans les faits divers, pour des raisons... passons. Et dans 6 mois, les élections présidentielles, c'est dans 6 mois. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 6 mois? On ne sait pas, la crise grecque, ce que ça va donner. Est-ce que l'euro va chuter ou pas? Où en est-on là-dessus? Vous avez vu comme les choses vont très vite. Alors aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de dire ça va se gagner à droite, au centre, à gauche. Je ne suis pas capable de le dire. Mais en tout cas, je sais que notre pays, aujourd'hui, a un endettement qui est... Vraiment, nous sommes au taquet. On ne peut pas aller plus loin. Et il faut qu'on revienne, si vous voulez, sur le déficit. Alors revenir sur le déficit, c'est quoi? Mais c'est augmenter les recettes, diminuer les dépenses. Ou l'un ou l'autre, voire les deux. Aujourd'hui, nous avons un projet de loi de finances qui prévoit les deux.
Avec, mais on ne pourra pas. Avec, rappelons pour les auditeurs, une austérité encore plus marquée, 30 400 postes de fonctionnaires qui ne seront pas remplacés, va en pâtir l'école, la police, la justice, la santé, autant de services publics. On peut continuer comme ça?
Mais le problème, c'est est-ce qu'on peut continuer comme on est aujourd'hui? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons au détriment de nos, peut-être pas enfants, mais petits-enfants. Et même aujourd'hui, à l'allure où on va, c'est peut-être les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on paye notre confort d'aujourd'hui, on ne le paye pas, c'est nos enfants et petits-enfants qui le paieront. Ça, c'est grave. Je veux dire, notre endettement est arrivé à un tel niveau qu'on ne peut plus l'augmenter. Et on va à la faillite. C'est ce qui se passe en Grèce, et moi je ne veux pas que mon pays aille dans ce sens-là. Je veux dire, c'est clair, regardez l'Espagne, regardez le Portugal, regardez l'Italie, la France pour l'instant ça va, mais ça veut dire qu'il faut remettre les choses à un certain niveau.
Une réforme fiscale beaucoup plus appuyée, comme le suggéraient certains socialistes durant les primaires, avec une taxation beaucoup plus importante vers les hauts revenus, pour ne pas dire les très très hauts revenus. Là-dessus vous êtes assez frileux quand même à droite.
Non, on n'est pas frileux. On n'est pas frileux. La preuve, c'est qu'on vient de voter, j'étais dans l'hémicycle, on vient de voter la contribution exceptionnelle. 3% et 4% à partir de 500 000 euros. C'est énorme.
À partir de 500 000 euros.
Oui.
Vous rendez compte qu'avant, il y a de la marge quand même.
Oui, non, mais vous savez, peut-être on ne se rend pas compte qu'on a évolué quand même. Aujourd'hui, Bruxelles est à une heure de Thalys de Paris. Si nous avons un certain nombre de personnes qui peuvent déménager très facilement.
Et là, vous allez ressortir le bouclier fiscal et la migration probable des riches.
Mais on l'a vu.
Le fait qu'il y ait eu le bouclier fiscal n'a pas ramené ceux qui s'étaient exilés fiscalement.
C'est très compliqué. Je vous l'accorde, c'est très très compliqué. On ne ramène pas les gens du jour au lendemain comme ça, parce que d'abord, on vous dit souvent, une loi de finances peut changer ce que fait la loi de finances d'avant. C'est-à-dire que ce qui est valable une année, l'année d'après, peut ne plus être valable. Donc, il faut adoucir un peu ça, il faut apaiser un peu les choses. Mais moi, je sais pertinemment que si on tape trop sur les hauts revenus, qui dépensent en France, qui font donc marcher l'économie française, eh bien, on risque de les voir partir. Bruxelles est à une heure de Thalys de Paris.
Et le décrochage entre l'opinion publique, vous la craignez au sein de l'UMP, entre l'opinion publique qui, elle, déguste en quelque sorte de cette crise, et les hauts revenus qui sont épargnés par crainte d'un probable départ.
Non, ils ne sont pas épargnés. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça.
500 000 euros, monsieur Maillet.
Non. Quand je vous dis qu'il y a une contribution exceptionnelle, qui en plus ne se met pas sur les revenus, se met sur le revenu fiscal de référence. C'est-à-dire qu'il comprend aussi bien les revenus du travail, les salaires, que les revenus patrimoniaux.
Oui, mais
alors que les revenus patrimoniaux, ils sont imposés autrement.
Bon, Christian, là, est-ce que c'est pas trop tard ? Parce qu'effectivement, la majorité donne des signes de rééquilibrage, de volonté de mise à contribution des plus riches, mais ça arrive tard dans la mandature. Ce mandat reste, pour les gens, le mandat d'un président qui a favorisé les plus riches. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas être un fardeau dans cette campagne qui
vous, justement, qui défendez aussi bien les SMS à prix surtaxé.
Ouais. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. L'histoire du bouclier fiscal, d'abord, je n'aime pas ce mot-là. Je préfère qu'on parle de plafond fiscal, parce que bouclier, ça fait un peu... Bon, peu importe.
Mais moi,
je l'avais dit à l'époque au Premier ministre qui a mis en place ça, c'est Dominique de Villepin. J'ai dit, le mot est... Bon, ça, c'est un mot de techno, enfin bon, voilà. Passons là-dessus. Ça a été annoncé avant 2007, avant les élections présidentielles. Souvenez-vous de ça. Il a mis en application son projet. Alors, c'est facile aujourd'hui de le dire, mais c'était quand même le projet. Mais depuis 5 ans, c'était en 2006 qu'il a annoncé, depuis 5 ans, les choses ont évolué. Nous avons eu la crise de 2008, crise financière et économique, et aujourd'hui, la crise contre l'euro, qui est aussi une crise économique, malheureusement. Donc, on est obligé de réagir. Regardez, on s'est réunis lundi pour parler de Dexia. Le problème, c'est qu'il y a 3 ans, en 2008, on pensait que ça y est, mais paf! L'histoire de la Grèce nous amène maintenant Dexia. Je veux dire, bon, donc il faut réagir très très vite, et nous ne sommes pas les seuls. Il faut convaincre, et là je crois que Nicolas Sarkozy a montré qu'il était capable de convaincre les autres chefs d'État, puisque la création quand même du G20, c'est lui. Il a convaincu Obama, il a convaincu les autres de faire le G20, de ne pas laisser, si vous voulez, les pays, ce qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, le dernier qui me manque, bon, peu importe. Bon, il a convaincu qu'il fallait, ce qu'on appelle les pays émergents, qu'il fallait les mettre aussi dans la discussion. Il ne fallait pas rester dans notre cocon, entre nous, comme nous étions, ce que nous avons hérité de la dernière guerre mondiale.
Alors, défaite de la droite au Sénat, défaite historique, triomphe...
Oui, mécanique. Parler,
mécanique, mais on peut en parler. Triomphe du processus des primaires qu'on en imaginait clausiquant et qui a recueilli l'assentiment populaire. Hein. Vous êtes sensible à ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est une sacrée séquence. Nicolas Sarkozy très bas dans les sondages, c'est une mauvaise séquence pour la droite. Comment remonter tout ça? Les primaires déjà.
36% vous... Nicolas Sarkozy.
Oui.
Dernier sondage, 64% François Hollande.
Richard Mallier, bon. Les primaires, bonne idée alors? Il faut en faire à droite aussi?
Écoutez, moi, je pense que ça a résolu le problème de leadership au Parti Socialiste. Ça, c'est clair. Il y avait un problème de leadership. Madame Aubry, Madame Royal, Monsieur Hollande, bon, Monsieur Montebourg, Monsieur Val. Bon, ça a résolu leur problème. Très bien. Ok, on a parlé de ça en France que pendant un mois, on n'a parlé que de ça. Alors que, si vous voulez, ce qui se passait à côté, l'histoire de la Grèce, c'est dramatique. dramatique, encore une fois, parce que ça peut se passer en Espagne, ça peut se passer en Italie, ça peut se passer au Portugal. Donc bon, on en a parlé. Maintenant, on va parler un peu des choses sérieuses.
Il y a un candidat qui sort légitimé de ce processus.
Ok, mais on va parler de choses sérieuses. Bon, ce candidat, on va bien voir ce qu'il va nous dire. Soit il reprend le programme du PS dont on chiffre entre 150 et 250 milliards.
Aujourd'hui, dans la presse, d'autres chiffres sont sortis.
Oui, je sais, il y a la police, la police et les syndicats, si vous voulez, donc les socialistes ou l'UMP qui disent entre 150 et 250 milliards. C'est vrai que ça va nous coûter très très cher, je veux dire, soyons clairs. Aujourd'hui, c'est un déficit à beaucoup moins de 3% qu'il faut trouver du PIB. Beaucoup moins de 3%. 3%, on a l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on rembourse ce qu'on rembourse et ce qu'on réemprunte, on arrive à trouver un certain équilibre. Mais le problème, quand on a une croissance qui est égale à qui est proche de 1 ou de 1,5, 3% de déficit, c'est pas bon du tout.
Vous croyez que les Français vont voter Nicolas Sarkozy parce que c'est Monsieur Règle d'Or et qui va assainir les finances?
Je pense que les Français commencent à prendre conscience du problème de la dette et de niveau où nous sommes.
Mais justement, on a évoqué les primaires, un mot sur la liturgie, ces primaires, l'organisation de ces primaires, vous en pensez quoi, vous? C'est une bonne chose, finalement, la démocratie? Ou vous dites, non, il faut un chef, on reste dans la droite disciplinée, espèce de verticalité
pour nous,
du pouvoir?
Non, mais nous, il est incontestable, si vous voulez, que nous avons un sortant, s'il veut se représenter, il a une pleine légitimité. Bon, ça c'est clair. Mais par contre, les primaires qui sont faites par le Parti Socialiste pour justement régler, comme vous dites très justement, un problème de leadership, ok. Juste une chose, c'est que les gens qui sont allés voter là-bas, en quelque part, on a mis une croix devant. Et ce qui veut dire qu'on va pouvoir les appeler, puisqu'on sait qu'ils se sont prononcés comme électeurs de gauche.
Ceux qui étaient volontaires, Richard.
Je dis ceux qui sont allés voter. Ouais.
Ceux qui ont, même à l'intérieur du vote, ceux qui ont vraiment voulu donner...
Non, moi je l'ai vu faire, vous savez, j'ai tenu les bureaux de vote très, très souvent, je l'ai vu faire. Vous avez des gens qui cochent sur une liste électorale, ceux qui viennent voter.
Les listes ont été détruites, ont été amenées à Paris et ont été détruites avec huissiers, etc.
Mais moi je parle d'une autre liste où quand on sait que la personne est venue, qui est tenue à côté, c'est-à-dire pas la liste officielle qu'on a vue, on a fait marger les gens, une autre liste à côté. Vous savez, vous avez dit vous-même que j'ai été élu en 83 conseil municipal de Bouvelaire, donc c'est pas d'aujourd'hui que je vois les élections.
Ça nous amène un peu...
Vas-y.
Ça nous amène un peu au département, même si il y a eu et y a ce Parti socialiste des Bouches-du-Rhône très contesté en interne et en externe par des affaires judiciaires. Quel est votre regard sur cette séquence? Est-ce que vous pensez que une fois passées ces primaires, il faut aller plus vite dans la rénovation de ce Parti socialiste? Et puis il y a aussi une conséquence éventuelle au niveau du département des Bouches-du-Rhône et de son président. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit aller céder sa place?
Écoutez, la justice est en marche et la justice est assez lente quelquefois. Bon, et même très souvent, ce qui permet de raisonner et de réfléchir. Bon, très bien. Donc la justice est en marche. Laissons faire la justice, voilà ce que je dis. Maintenant, c'est un problème du Parti Socialiste. C'est à lui aussi à se déterminer. Moi, je suis UMP, je ne suis pas au Parti Socialiste.
Non, mais vous étiez également conseiller général.
J'étais conseiller général.
La gestion du conseil général vous semble entre de bonnes mains.
Vous savez,
est-ce que vous avez la critique plutôt retenue, là. Vous êtes dans la retenue.
Un peu bizarre aussi, vous savez, on donnait des subventions, on ne savait pas trop, il n'y avait pas de règles claires.
Il n'y avait pas de règles. On reviendra là-dessus, Richard Maillet.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.
Le Ravi, Radio Grenouille, avec nous, le député UMP, Richard Maillet. Michel Béraud.
À droite, localement, il y a deux attitudes un peu. Il y a l'attitude, on va dire, de Jean-Claude Gaudin, qui est un peu dans une position de réserve vis-à-vis de ses affaires. Et puis, il y a l'attitude d'un Renaud Muselier, qui va d'ailleurs sortir un livre sur le système Guérini, et qui dit il y a là un problème majeur pour la démocratie locale, sans présumer de la présomption d'innocence de Jean-Noël Guérini. L'affaire est trop grave, il doit prendre du recul, il doit réellement céder sa place, il faut que l'opposition le demande haut et fort. Vous êtes plutôt dans une position de réserve ou vous êtes plutôt derrière une position de fermeté sur cette affaire-là?
quelque part, je suis un peu gêné, si vous voulez. Bon, parce que je me dis, après tout, c'est le peuple qui l'a élu. M. Guérini n'est pas arrivé comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Bon, et quand je vois un élu qui est dans cette position, je me dis toujours, ben, ceux qui sont anti-parlementaires, anti-élus, parce qu'il y en a, hein, bon, ça va amener de l'eau à leur moulin. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que quand un élu était pris les doigts dans la confiture, vous comprenez ce que je veux dire, hein, ben, c'est très simple, il est inéligible à vie. Ça, c'est ma position. Malheureusement, c'est pas évident de le faire passer. Mais bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Là, aujourd'hui, c'est vrai, quand on lit dans les journaux ce qu'on dit sur le président du Conseil Général, on peut se dire, mise en examen pour association de malfaiteurs, c'est un peu grave, ça, quand même. Mais bon, ça risque pas mal d'années de prison.
Je reviens encore là-dessus, on est presque étonné de votre retenue, Richard Maillet. La droite populaire, c'est quand même, vous portez la vertu en mandoulière, vous n'hésitez pas à montrer du doigt, à juste raison parfois, des fois un peu moins. Aujourd'hui, dans le département des Bouches-du-Rhône, vous avez l'affaire Granier, mis en examen.
Non, il n'est pas mis en examen, il est condamné.
Bon, il est en cassation,
mais bon, voilà. Donc les choses sont claires pour lui.
En examen, vous avez différents sénateurs qui ont également été mis en examen. Le conseil régional qui a aussi des soucis avec un juge qui enquête là-dessus. Tout ça, vous n'avez comme réaction qu'une laissons faire la justice ?
Je dis laissons faire la justice, parce que c'est à la justice à faire son travail. Maintenant, c'est vrai que quand on voit le conseil régional, c'est une affaire qui a éclaté il y a maintenant 3 ans, ça n'avance pas, on peut se poser des questions aussi. Bon, mais je ne peux pas, si vous voulez, avoir hurlé contre ceux qui tapaient sur l'époque, sur Eric Woerth, c'était début de l'année dernière, bon, de l'été dernier, pardon, donc en 2009, dire attention, il est mis en examen, on ne sait pas, etc., etc. Bon, et puis aujourd'hui, si vous voulez, un peu faire le contraire de ce que je disais. Bon, moi je dis à la justice, dépêchez-vous de faire votre travail. C'est tout.
Bernard Granier doit démissionner.
Ah ben Bernard Granier, il a été condamné en appel. Bon, voilà.
Il est démissionné, toujours
non. Démissionné. Et oui, parce qu'il a fait son appel. Il a fait appel en cassation. Donc voilà. Donc dès que la Cour de cassation aura dit, c'est vrai qu'on peut se dire quelque part que la justice, quelquefois, elle va pas vite. Et c'est ça qui est dramatique.
L'Université populaire de l'UMP à Marseille ont été beaucoup plus virulents que vous sur toutes ces histoires.
C'est ça qui est dramatique, c'est le niveau de la justice. Parce que quand vous avez quelqu'un qui fait une bêtise, qui est condamnable, il faut le condamner au plus vite, parce que des fois vous le condamnez 6 mois, 1 an, 2 ans après, la personne ne se souvient plus. Vous avez un jeune qui fait une bêtise, bon, elle est quelle qu'elle soit, et puis on lui dit 2 ans après, ben voilà, t'as 1 mois de prison avec sursis. Il comprend plus parce qu'il s'en souvient plus.
Vous évoquez la justice, ça sera un des thèmes centraux de cette campagne présidentielle qui va débuter, qui a peut-être débuté déjà.
Moi, je pense que la justice,
la sécurité, la justice.
La sécurité, ça c'est une chose, mais il faut aussi que la justice suive, si vous voulez, le problème que l'on voit avec l'intervention des forces de l'ordre. Et quand on voit qu'un juge, enfin, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait.
Pourtant, l'UMP a beaucoup légiféré là-dessus.
Oui, mais il faut aussi que ça soit appliqué par les juges. Or, regardez, à Draguignan, on remet, il y a quelques semaines, on remet en liberté un dealer étranger qu'on a attrapé en flagrant délit, on le remet en liberté parce qu'il y a un juge qui n'a pas fait, au moment où il fallait, il n'a pas mis la virgule sur la page, il fallait. Non, attendez, je m'excuse, mais là, vous allez faire croire à qui que ce monsieur va revenir, c'est un étranger. Il ne remettra plus les pieds en France. Donc là, on a un problème. On a un problème qui est réel.
Là, vous pensez que le Parti Socialiste a évolué sur ces questions de sécurité? Aujourd'hui, par exemple, il ne conteste plus les objectifs, il conteste plutôt les chiffres et surtout le manque de résultats de la part du gouvernement?
Vous savez, on vit dans une société qui est de plus en plus violente, ça c'est clair. Et en plus, la violence baisse en âge. Vous avez des gamins qui ont 10-12 ans qui sont extrêmement violents. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que nous, on évolue. On évolue dans notre état d'esprit, mais on évolue aussi dans notre réponse pénale.
Encore.
Alors est-ce qu'on doit faire du pénal ou pas? On doit avoir une réponse à ça.
Michel.
Et pourtant, Nicolas Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur, etc., enfin, la droite est quand même aux responsabilités depuis des années, et l'insécurité, le niveau de l'insécurité n'a pas franchement baissé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté incantatoire? Et puis finalement, RGPP oblige, on réduit aussi les effectifs de police.
Je vais vous dire une chose. Je suis sûr d'une chose, c'est que si on avait eu M. Jospin en 2002, Alors là, on se trouve avec un niveau d'insécurité phénoménal.
Oui, mais ça, c'est revient à l'ordre de la supposition la plus absolue.
Non, mais c'est clair. Quand on voit entre 1997 et 2002 l'augmentation de la délinquance que ça a donné. Donc elle aurait continué à augmenter, vraisemblablement. Mais on est dans une société, nous sommes 10 ans après, encore plus violente qu'avant. Par contre, il faut qu'on se pose des questions, peut-être, sur les raisons de cette violence.
Alors, essayons d'apporter plutôt les réponses. Est-ce que c'est une faillite du gouvernement ?
Non, je pense qu'il y a une faillite de la société en elle-même.
Parce qu'à chaque fait divers, il y avait une nouvelle loi, hein, quand même. Et ça n'a pas dire, forcément suffi.
On ne peut pas dire ça, si vous voulez, comme ça. Pas à chaque fait divers, on a une nouvelle loi. Encore une fois, il faut qu'elle soit appliquée. Et je ne suis pas sûr que les nouveaux textes soit appliqué systématiquement. Il faut un certain temps à la justice. Moi, j'ai vécu au niveau administratif, et c'est la même chose, civil ou administratif, alors qu'on avait changé le texte, j'ai vu un avocat général dire « Votre jurisprudence ». Non ! Du moment qu'on a changé le texte, on doit l'appliquer autrement. Voilà ce que ça veut dire. Eh bien, le législateur avait changé le texte, la justice administrative a continué à appliquer de la même manière.
Les peines planchers sont appliquées, elles ne sont pas d'une efficacité non plus.
Est-ce que vous êtes sûr que le juge d'application des peines applique vraiment les choses comme elles doivent être appliquées ?
Alors, est-ce que l'insécurité ne serait pas peut-être d'une nature sociale et les problèmes de sécurité liés finalement au mal-être et à la déshérence sociale des gens ? Ce qui peut m'amener, de façon peut-être indirecte, et vous allez le contester, j'imagine, à une loi qui porte votre nom sur le travail le dimanche. Elle a donc réglementé un état de fait, hein, par exemple le plan de campagne qui existait avant. C'est ce que vous revendiquiez. Et pourtant, là encore, là, le mois d'octobre, enfin, tous les mois, il y a des salariés qui protestent, qui se battent devant des tribunaux pour dénoncer un travail
des exemples.
Ben, par exemple, là, à Albertville, des caissières qui ont obtenu gain de cause.
Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec mon texte.
Votre texte, il faut savoir qu'il a été retravaillé 4 fois, je crois. Il a été vidé de sa substance.
Regardez bien les textes que j'ai déposés, si vous voulez, depuis 2003-2004, le premier, et vous verrez que l'évolution a toujours été la même. Moi, j'ai été clair là-dessus. Si nous avons des zones en France, il y en a plus d'une vingtaine, une trentaine vraisemblablement, où ça existe depuis des décennies. Vous l'avez dit vous-même, depuis des décennies, à plan de campagne, ça existait. Il y avait un arrêté préfectoral qui était pris, qui permettait.
Une dérogation.
Cet arrêté préfectoral n'était pas sur une bonne assise juridique. Auquel cas, à un moment donné, quelqu'un l'a mis en cause. Et le tribunal administratif a dit, oui, il n'y a pas une bonne assise juridique. Donc mon texte, depuis le début, c'était ça ma volonté. Par contre, la caissière à Albertville, il s'agit de surfaces alimentaires qui ne sont pas prévues dans mon texte.
Qui ne sont pas concernées.
Qui peuvent, depuis un siècle, ouvrir le dimanche matin.
Richard Mallet, vous êtes quelqu'un de concret, vous défendez des projets de loi concrets. Vous dites, ma loi n'oblige pas les gens à travailler le dimanche. Tout repose sur la liberté de choix des salariés de travailler ou pas, ils sont mieux payés, etc. Mais vous savez bien, imaginez une femme, par exemple, au chômage, longue durée, qui a besoin, on lui propose un emploi le dimanche, effectivement un peu mieux payé, un 20 heures, un CDD, elle va le prendre. Je veux dire, est-ce que ce choix-là n'est pas illusoire ? Est-ce que, en légiférant comme vous l'avez fait, vous n'ouvrez pas à nouveau les vannes de la précarité ?
Mais non, parce que pourquoi ? Vous êtes extraordinaire, vous allez chercher toujours le mouchoir et la larme.
C'est de la réalité, les emplois.
Est-ce que vous avez été étudiant ?
Oui.
Vous avez été étudiant. Moi, je l'ai été aussi étudiant. Je puis vous dire que je n'ai pas travaillé dans les magasins, mais le samedi et dimanche, je travaillais dans un club, au restaurant du club. J'arrivais en extra et je faisais... Et j'en avais besoin, en fait, j'en avais un peu besoin, mais c'était pas un besoin vital. Mais vous savez, quand j'ai visité un certain nombre de zones, dans les magasins de bricolage, par exemple, j'ai vu des jeunes qui venaient me voir, monsieur le député, tenez bon, on veut, moi, ça me permet de m'acheter ceci, de m'acheter cela, quand je travaille
le dimanche.
C'est pas un projet de loi exclusivement pour les étudiants, Richard Maillot, vous savez bien que le système est ainsi fait.
Je suis en train de vous dire que, monsieur, vous me parlez de cette dame qui a des enfants, qui est divorcée, qui n'a pas de travail, qui va être obligée de prendre un travail le dimanche. Je vous dis que le travail le dimanche, bien souvent, nous avons des étudiants. Ce sont, à plein de campagnes en tout cas, 97% de CDI qui vont le samedi et le dimanche. Et en 2 jours, ils se font un mois entier. Et donc ils vous disent, surtout, moi je veux continuer à faire ça, permettez-moi de le faire, faites en sorte que votre texte soit voté. C'est ce que j'ai entendu aussi maintes et maintes fois. Alors qu'on arrête de sortir les mouchoirs et de faire croire que, parce que vous allez voir un peu les salariés, à plein de campagnes, j'ai jamais vu une manifestation contre.
Si, il y en a eu quelques-unes.
Contre, je dis bien. Il y en a eu des manifestations, mais pour. Mais contre, la CGT a essayé d'en faire, je vais vous dire, bon, mais chaque fois, ils étaient une double poignée.
Restons dans la précarité, vous savez qu'on est dans une région qui est plutôt sinistrée, Fralib, on en parle encore. Un de vos confrères députés, pas des moindres, le patron de l'UMP départemental, Renaud Muselier, les a qualifiés de morts. C'était peut-être un petit peu prématuré. Du côté de Gardanne, coin que vous connaissez relativement bien, on parle de Rio Tinto, qui est une cession, c'est pas une fermeture. Enfin, l'inquiétude est là. Comment vous expliquez toutes ces fermetures? Et surtout, on assiste à une espèce de compassion de la part des politiques et à aucune action concrète, ou quasiment.
Alors, deux observations. Un, sur l'usine Rio Tinto à Gardanne, on parle de cession de l'usine qui fait des alumines spécialisées et qui est bénéficiaire. Mais par contre, Rio Tinto veut s'en débarrasser. Bon, vous savez, c'est une entreprise mondiale. Bon, donc il y a des usines partout. Là, ça fait peut-être pas assez de tonnage pour elle. Veut s'en débarrasser. Dans la mesure où vous avez trouvé quelqu'un, si vous voulez, qui va investir, puisque c'est quelque chose de bénéficiaire. À côté de ça, vous avez la centrale thermique de Gardanne avec E.ON, qui va devoir fermer le quatrième groupe en 2013. Parce que
c'est un projet de reconversion plutôt réussi. En tout cas, ils sont toujours dans l'expectative, parce que dans deux ans, on ne sait pas encore.
Mais
le gouvernement s'est engagé verbalement.
Faut pas non plus. Non. Moi, j'ai une lettre du Premier ministre. Oui. Je puis vous dire que.
On a aussi une lettre de Nicolas Sarkozy durant les municipales qu'il a donnée.
Non.
À Jean-Claude Godin, qui n'a pas servi à grand-chose.
Hein. Attendez. Non, soyons sérieux. Oui. D'ailleurs, j'ai reçu les syndicats et ils ont reconnu quand même, là, c'était un peu différent. On avait une lettre d'un ministre avant qui disait qu'il est. Ça ne s'est jamais fait. Là, c'est autre chose. Et on a répondu à un appel d'offres lancé par la France sur les producteurs d'énergie. Et ce projet a été retenu. Donc maintenant, E.ON, et nous allons y veiller, doit mettre en application, puisque son projet a été retenu. Alors, ce qui veut dire qu'on va rentrer dans une phase administrative, avec enquête, peu importe, des gros dossiers, c'est énorme, 150 mégawatts, et en plus des centaines, c'est 700 emplois qui vont être créés dans la gestion forestière.
Richard Magnier, ça c'est un exemple...
Ça c'est du concret,
voilà,
monsieur.
Voilà. Ça c'est un exemple qui a réussi, on en a cité d'autres qui sont dans l'expectative, Rio Tinto ou dans la faillite, comme
Fralib. Rio Tinto, c'est cédé, on ne va pas dire qu'on va la fermer, on dit qu'on cherche un acheteur.
En tout cas, il y a 460 employés qui sont petit peu dans l'inquiétude. On est dans un climat généralisé, vous avez parlé tout à l'heure de la crise nationale et internationale. Il y a un mouvement également qui se manifeste au niveau international, peut-être un peu moins en France, mais il a tendance à s'ancrer également, c'est celui des indignés. C'est une nouvelle forme de manifestation qui vous inquiète à l'UMP ?
Qu'elle m'inquiète à l'UMP, mais moi je comprends, si vous voulez, qu'il y ait des gens qui... la solidarité, c'est quelque chose d'important. S'il y a des gens qui en ont besoin, on fait en sorte d'être solidaires vis-à-vis d'eux et de les aider. Ça, c'est une chose. Par contre, là, je peux vous dire ce qui nous inquiète à l'UMP, et vous allez voir qu'on va y travailler, c'est la fraude fiscale et sociale. Et là, je puis vous dire que... Oui, la démocratie, c'est très bien... Chacun a une voix, est égal. Mais à un moment donné, si vous voulez, quand vous en avez qui profitent du système, à tort, c'est-à-dire que c'est pas la solidarité, là c'est le profit,
on arrive presque au terme d'une question. En réponse à ces indignés, vous dites on va faire la chasse aux fraudes davantage.
Non. Je vous disais que je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui en aient besoin. Donc il faut les aider, ça c'est la solidarité. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, c'est ne pas être humain que de réfléchir, de répondre autrement. Mais par contre, à côté de ça, on a un problème, si vous voulez, qui est incontestable et incontesté. Je veux dire, c'est 21 milliards d'euros dont on parle.
D'accord. Le fait que l'Union européenne, par exemple, supprime les aides qu'elle attribuait généralement aux associations caritatives, Restos du Cœur et
autres. Moi, j'ai trouvé ça complètement déplacé.
Voilà, ça aussi.
Complètement déplacé.
Aujourd'hui, vous qui venez de Gardanne, enfin qui êtes élu aussi de Gardanne, vous venez de Port-de-Bouc, on a une expression, l'élection se fait.
Bouc-Pélère.
On disait l'élection se fait au pied de la mine. Elle risque de se faire au pied des licenciements pour les prochaines législatives.
Vous savez, on a un monde qui est en train d'évoluer, hein, d'une façon phénoménale. Aujourd'hui, on va passer une fin de semaine à Pékin. On a 12 heures d'avion, on y va quand même. Je veux dire, bon, avant, il y a 50 ans, on n'allait pas à New York comme ça. Aujourd'hui, on va y passer une journée. Ça, c'est la mondialisation. C'est le fait que la planète soit devenue un village. On n'y peut rien, là. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais par contre, il faut en tenir compte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on évolue, nous aussi. C'est assez clair. Et vraisemblablement, les Français, il y a quelques décennies, ont évolué aussi comme ça. L'ouverture et le fait que fabriquer en Chine, fabriquer à l'étranger, ça soit moins cher, donc la consommation a augmenté en volume parce que c'est moins cher, etc.
Il y a une ambiguïté quand même. Nicolas Sarkozy s'est fait élire une première fois sur un discours quand même très libéral, travailler plus pour des réglementations, etc. Et aujourd'hui, on sent un besoin s'exprimer de protection. Est-ce que cet homme-là qui défendait l'inverse il y a quelques années va pouvoir défendre un point de vue différent ou alors il continue à dire déréglementons, mettons les gens en concurrence, travaillons plus pour gagner plus.
J'ai toujours été un libéral, si vous voulez, et de profession et d'éducation, si je puis dire, et de philosophie. Aujourd'hui, je me rends compte que la mondialisation fait que peut-être la libéralisation a des limites. Le libéral a des limites. Donc il faut réagir au niveau européen. Aujourd'hui, c'est ça. On doit réagir au niveau de l'Europe. 350 millions d'habitants, ça représente quelque chose, alors que la France, en elle-même, c'est 1% de la population mondiale. À côté des 20% qu'on trouve en Chine, ou des 20% qu'on trouve en Inde. Vous comprenez que là, on a d'énormes problèmes.
Richard Maillet, on arrive au terme de cette émission. Vous êtes élu député. Vous êtes même le député le plus actif de France, c'est Michel Guéraud qui disait ça en introduction. Et paradoxalement, on constate une absence de votre nom lors des grands rassemblements ou des grandes décisions dans la région. Vous n'êtes pas prophète dans votre pays ici ?
Pourquoi vous me dites ça ?
Vous étiez relativement...
Bon, vous savez, je ne suis pas...
Vous n'avez jamais été pressenti pour être secrétaire d'État ou ministre ?
Ah ben je n'en veux surtout pas. Moi, je suis bien, vous savez, je suis bien sur le terrain, je suis bien quand je rencontre les électeurs. Vous savez, l'histoire des SMS dernièrement, là, qui sont passés, enfin, que j'évoquais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est venu qui m'a dit on est compte, on reçoit des.
Non, bon, non, mais d'accord, mais Richard Maillet.
Il faut faire quelque chose, je fais quelque chose.
Le but logique d'un homme politique, c'est pas de rester député, même si vous êtes questeur de l'Assemblée nationale, c'est d'être, au moins, d'arriver à mettre en application visible.
Mais je suis bien où je suis.
Vous sentez pas un petit peu ignoré par Jean-Claude Gaudin, Renaud Muselier, tout ça ?
Pas du tout. Pas du tout.
Vous vous dites pas c'est des enfants gâtés, ils ont tout. Moi je me bats sur le terrain, je fais je sais pas combien de kilomètres.
Non. Moi vous savez, je suis bien où je suis. Je veux pas aller plus haut, ça ne m'intéresse pas. Au gouvernement finalement on a peu de pouvoir, c'est ce que j'ai vu. Donc je suis très bien où je suis. Laissez-moi où je suis, réalisez-moi. Ça c'est pour les électeurs, pas pour vous, mais pour les électeurs. Soyons clairs. Et moi je continuerai à me battre pour les électeurs.
Mes chers Maillet, je vous remercie et puis je vous dis à prochaine législative 2012. Candidat Merci. Dans la même circonscription, le 10e.
Bien entendu. Merci de m'avoir reçu.
Allez, on se retrouve le mois prochain. Bye.